une présentation, le titre que j'ai donné à cette présentation, c'est la suprématie humaine de point l'exploitation animale comme cause et conséquence d'un système politique. En fait, je vais vous dire les désintentions juste après. Aller trop vite. D'abord, je me présente. Du coup, moi, j'ai découvert l'antispécisme en mars 2016, quelque chose comme ça. C'était un moment où je m'ennuyais, je voulais des trucs à lire. Je suis tombé sur un site qui s'appelle infocus.net pour ceux et celles qui connaissent. C'est un site avec énormément de ressources sur plein de sujets différents. Du coup, j'ai commencé à lire des choses sur le sexisme, le racisme, et par ennui, par divagation, je suis tombé sur la section antispécisme. Et principalement les textes de David Olivier et Yves Bonnardel, ça m'a intéressé au sujet. C'était au même moment en France qu'il y avait Nuit debout, et du coup, je me suis dit. Je vais imprimer ces brochures-là, je vais les mettre sur, sur une table à Nuit debout pour que les gens puissent se servir. Et en fait, je suis parti à Montréal après en juin. Il y avait aussi Nuit debout à Montréal, j'ai commencé à distribuer ces brochures, et là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Qui parle de l'antispécisme, la section végane de Nuit debout à Montréal, et du coup j'ai pu créer des liens et rentrer en contact avec des gens qui viennent de là. Et du coup, le but de ma présentation elle est motivée par le fait qu'aujourd'hui dans le milieu animaliste antispéciste, il y a beaucoup d'attention qui est portée sur les comportements individuels. Qu'est-ce qui fait que les gens, devant une situation où ils vont faire telle ou telle chose, comment ça se fait qu'ils vont manger de la viande, comment ça se fait qu'ils vont. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes qui font qu'ils vont esquiver telle question, qu'ils vont dire telle ou telle chose qui nous paraît absurde. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'attention personnellement qui est portée sur ce que moi j'appelle le niveau sociétal, l'interaction entre les acteurs. Donc, du coup, ce que j'ai mis ici, c'est plein d'acteurs. Qu'on peut considérer comme des ennemis ou des alliés pour la libération animale, vu que c'est la libération animale qui nous intéresse. Et du coup là j'ai mis c'est la marche pour la fermeture des abattoirs, ici c'est Gary Francione, ici c'est l'action de 169 Life Libération Animale au Salon de l'Agriculture, et ici c'est un tag qui avait été fait sur une crèmerie à Lyon. Et du coup toutes ces choses-là, elles vont susciter des réactions de la part du public, mais il y a assez peu de réflexion sur comment ça se fait qu'il y a des gens, comment ça se fait que Francione il va séduire, qu'est-ce qui fait que faire une marche ou pas faire une marche c'est la bonne idée, comment ça se fait qu'il y a plein de gens dans ces marches ou pas. Et je trouve qu'il y a assez peu d'attention qui est portée aussi sur l'autre versant, le versant réactif en fait, où il y a des gens qui, typiquement, cette personne-là dont je ne connais pas le nom, ce qui est l'actuelle présidente de la FNSEA, elle a un impact sur les animaux qui est beaucoup plus supérieur en fait qu'elle mange de la viande. Le problème de cette personne-là, de Jocelyne Porchet, de la Fédération Paysanne ou de la Coordination Rurale, c'est pas du tout qu'ils mangent de la viande, c'est qu'ils ont un soutien politique actif, ils vont être dans les médias pour défendre les vaches et essayer de voir comment on peut réguler ce qui nous intéresse dans les libérations animales. Et un exemple flagrant de ce genre de réaction politique du camp d'en face, c'est le projet ACCEPT. Là, j'ai simplement mis un petit dessin. Le projet ACCEPT, c'est un projet qui a été lancé par l'INRIA il y a quelques mois, par l'INRA il y a quelques mois. Le principe du projet ACCEPT, c'est de comprendre les controverses qui animent la société par rapport aux pratiques d'élevage, et ensuite arriver à comprendre vers quelles pratiques d'élevage on pourrait aller pour que ces controverses-là soient diminuées. Donc j'en parlais dans la conférence de Tiffany Lagarde, c'est ce genre de projet qui va amener les industriels et les coordinations d'éleveurs à dire la population voit mal le fait de couper les cornes des vaches, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à exploiter des vaches sans pour autant avoir cette chose-là qu'on peut nous reprocher. Donc moi ça va être ce qui va m'intéresser ici. Ma présentation elle va être divisée en deux parties. La première ça va être une exploration assez naïve au départ, de la gestion entre les. Salut Stéphane, le participant avec chose à dire. La gestion des conflits entre les humains et les animaux. On va prendre une position naïve partant du fait qu'on n'a pas du tout d'opinion sur comment est-ce que ces conflits sont gérés dans notre société, et on va essayer de trouver le principe qui gère cette gestion de conflit. Et ensuite, je vais détailler. À partir de quel individu, de quoi est composée nos sociétés, et qu'est-ce que la vision qu'on a des individus dans nos sociétés, comment est-ce qu'elle peut nous aider à combattre la suprématie humaine. Et enfin, un avertissement par rapport à ma conférence, il y a trois choses au niveau de mes influences qu'il faut que je dise. La première, c'est ma culture politique, donc ça va principalement être le féminisme matérialiste et le communisme libertaire, en gros, pour le faire très large. Du coup, le féminisme matérialiste, ça va être principalement les textes de Christine Delphi et Colette Guillemin sur le sexisme et le racisme. C'est pour ça que vous allez voir que ce que je dis, ça va être assez proche de ce que va dire Axel, de ce que va dire Yves, parce que c'est des influences qu'on a en commun. Une autre de mes influences, c'est ce que j'appelle le confort de l'inaction. C'est-à-dire que j'ai pas, je vais vous présenter des idées, mais j'ai pas à dire je fais ces choses-là, enfin ces choses-là sont bien, la preuve je les fais et ça marche. Puisque je fais rien. J'ai dû faire une vigile il y a 6 mois et je trouvais pas ça agréable, donc je suis retourné à mes études, quoi. Et du coup, j'ai pas, je suis assez protégé par rapport à ça, puisque j'ai pas à vous présenter d'action qui serait ce que je fais. Et enfin, un biais de confirmation, la plupart des faits que je vais vous présenter sur cette présentation pour illustrer mes propos, je les ai trouvés une fois que je voulais illustrer mes propos. J'ai pas fait d'études empiriques partant de rien, je pars, c'est ce que va, enfin, c'est une position pour une question d'Alphie aussi, je pars du fait que les animaux sont dominés, que les animaux subissent une exploitation, et ensuite, j'essaye de comprendre comment est-ce que cette exploitation-là, elle se structure dans la société. Et un autre avertissement, c'est du coup mon but, ou mes deux buts que je vais avoir avec cette présentation. D'une part, c'est de présenter le potentiel stratégique d'une vision radicale. Radicale dans le sens où je pense qu'on peut identifier une cause première à l'exploitation des animaux, ce que moi je vais appeler la supprimation humaine. Et aussi explorer les collaborations possibles malgré les divergences d'analyse. Mon but avec cette présentation, ça va aussi être de présenter ce que moi je vais appeler un plus grand dénominateur commun entre toutes les personnes qui vivent pour les animaux, et partant de ce dénominateur commun, des choses qu'on a en commun, comment est-ce qu'on peut gérer les différences qu'on a au-delà de ces points communs qu'on peut avoir. Et du coup, je vais me lancer. Donc, je vais commencer ma présentation avec une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'on va imaginer une situation, quelque chose d'assez naïf, et on va imaginer que vous êtes en voyage, que vous venez d'un pays ou d'un endroit où vous trouvez que les animaux sont traités d'une manière qui vous convient. On parle du fait que vous êtes animaliste et qu'on est d'accord sur la manière dont vous voulez traiter les animaux. Vous arrivez en France et vous voyez qu'en France, d'une part, on a des animaux, donc là, juste simplement des vaches qui sont dans un pré et qui sont à l'aise, quoi. On a également des interactions entre les humains et les animaux qui sont des interactions bénéfiques, comme ça c'est un refuge de cochons nains et ça c'est certainement les relations qu'il peut y avoir entre les chiens et les humains. Et on a même de l'aide qui est apportée par les humains à des animaux sauvages qui seraient blessés. Donc je vous dis, il y a des situations dans lesquelles il y a une collaboration entre les humains et les animaux. Mais vous vous dites aussi qu'il y a sûrement des cas dans lesquels les intérêts des humains et les intérêts des non-humains sont en conflit. Donc vous êtes curieux ou curieuse, vous allez chercher dans cette société quelqu'un qui va pouvoir vous répondre à la question que se passe-t-il quand les intérêts d'un non-humain sont confrontés avec ce non-humain. On vous répond quelque chose qui est apparemment assez classique. On va vous dire, dans notre société, on ne doit pas causer de souffrance ou tuer les animaux sans nécessité. C'est le principe qu'on va vous donner pour la gestion de ces conflits. Donc, vous continuez votre voyage, vous vous promenez en France et vous voyez des situations concordantes. C'est-à-dire que là, j'ai présenté trois situations. Une dans le cas du soin des animaux où un homme a été condamné à un an de prison dont 6 mois ferme pour avoir affamé les animaux dont il avait les soins. L'autre, où des gens qui piégeaient des oiseaux ont été condamnés après que la Ligue pour la protection des oiseaux ait essayé de les empêcher. Et enfin, quelqu'un qui a été interpellé par la police parce qu'il était en train de braconner des civelles, en train de pêcher des poissons. Vous pouvez regarder ces choses-là. Effectivement, lorsque les intérêts des animaux sont négligés, lorsqu'il y a un conflit entre les intérêts des humains et les intérêts des animaux, s'il n'y a pas de nécessité, donc on n'imagine pas de nécessité pour qu'on affame des animaux ou pour qu'on piège des oiseaux alors qu'on peut très bien se nourrir d'autre chose. Et pareil pour les poissons, comme vous dites. Quand il n'y a pas de nécessité, effectivement, la communauté réagit et la communauté va empêcher ces cas de négligence, cette violence sur les animaux. Donc, vous êtes assez satisfait, vous dites que ce qu'on vit, c'est pas n'importe quoi, mais vous vous rendez aussi compte qu'on a des cas discordants, on a des situations en contradiction. Donc, vous allez, par exemple, apprendre que, là, j'ai pris le cas des veaux. Dans le cas des veaux, on vous apprend que les veaux sont sous-alimentés dans les élevages. On va leur donner moins de fibres et moins de fer que ce qu'ils devraient avoir, et ça leur est préjudiciable. Et vous n'arrivez pas à comprendre comment il n'y a pas de nécessité évidente dans ce cas-là. Il y a pas, quand vous dites nécessité, vous pensez par exemple à la survie, vous ne voyez pas pourquoi est-ce que sous-alimenter l'ego, ce serait dans un intérêt fondamental des. Ouais, Stéphane. Dans un intérêt fondamental des humains. Et on va avoir pareil avec les animaux sauvages et les animaux aquatiques. Vous allez voir que là, typiquement, c'est la pêche au vif. Donc, ce poisson, il va sûrement bien aimé continuer à vivre sa vie tranquille. Et pareil pour cet écureuil à côté. Et dans les deux cas, vous n'imaginez pas quelle nécessité peut être présentée dans ce cas-là. Et pourtant, si jamais vous essayez d'empêcher ces personnes-là, d'une part, de pêcher et d'autre part, de chasser, vous allez avoir la communauté qui va vous en empêcher. Et du coup, vous allez poser la question. Là, vous savez que dans ces deux cas, il n'y a pas besoin, c'est pas un besoin de survie qu'on est humain. Ah oui, ah, là, j'avais fait ça dans la, je me suis planté là-dessus. La première hypothèse que vous faites, c'est. Stéphane ?
Non.
Stéphane ? Est-ce que tu peux t'écarter un petit peu, s'il vous plaît ? Tiens, ça se trouve. Donc, la, comment dire, on vous a dit qu'on ne voulait pas souffrir sans nécessité. Du coup, la première hypothèse que vous faites, c'est soit que les gens ne savent pas que les animaux vont souffrir dans ces cas-là, soit qu'ils pensent que c'est une nécessité. Et du coup, vous avez cette société-là, vous dites peut-être qu'elle n'a pas accès à ces informations-là. Le problème avec, avec cette hypothèse-là, c'est que là, c'est une carte du pourcentage de végétariens dans les, par pays, et vous vous rendez compte que si quelqu'un cherchait, essayait de se renseigner sur cette possibilité de vivre sans manger de viande, on a 10% des personnes en Italie qui survivent et on n'a pas vu, on n'a jamais entendu que c'était une crise sanitaire grave. Il n'y a pas de. Quelqu'un qui chercherait à savoir si c'est possible de vivre sans viande verrait qu'il y a 10% de la population de l'Italie qui vit sans viande sans qu'il n'y ait jamais personne qui ait crié au scandale. Donc, ça c'est pour l'ignorance du fait que ce n'est pas nécessaire. Et pour l'ignorance du fait que peut-être que les gens ne savent pas que les animaux sont sensibles, je vais citer un extrait d'un petit document qui s'appelle Savoir être et savoir faire avec les bovins, qui a été réalisé en partenariat avec l'Institut d'élevage. Donc, les éleveurs qui sont les personnes qui sont au premier rang des négligences des intérêts des animaux. Du coup, je vais vous lire l'extrait qui dit « La manipulation des vaches allaitantes présente des particularités. Il faut bien avoir en mémoire que la vache allaitante forme une équipe avec son veau. Elle sera toujours là pour le protéger. » Donc là, on est dans le cas des vaches allaitantes, des vaches qui vont garder leur veau jusqu'à ce qu'ils soient envoyés à l'abattage. Mais on sait que c'est cette même population d'individus qui reçoivent les mêmes formations qui vont également retirer des veaux à des vaches après 8h, 24h, 48h... Donc, ces personnes-là savent que la vache a un intérêt à être avec son veau, qu'elle a un intérêt à le protéger. Et un autre exemple qu'on peut donner par rapport à ça, dans le même document, ils vont dire ensuite « L'intervention inhabituelle de l'homme se traduit chez les animaux par une appréhension. La vache sait ou sent que l'on va pratiquer sur elle une intervention particulière, soit contraignante, soit douloureuse, qui aboutit de toute façon à un stress. » Donc, on a des personnes, là, dans ce cas-là, typiquement, si on s'intéresse aux vaches, on a des personnes qui savent que les vaches peuvent ressentir la douleur, peuvent anticiper la douleur, et qu'elles ont un intérêt à rester avec leur veau. Donc, là, si on reste dans cette position naïve, on est troublé parce qu'on se dit, bon, ils savent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des prix d'animaux pour survivre, ou en tout cas pas de viande, ils savent que les animaux sont sensibles, qu'ils ont des intérêts à, par exemple, conserver leurs liens sociaux, et du coup, vous vous dites que peut-être quand on vous parle de nécessité, on vous parle d'autre chose. Vous, quand on vous dit nécessité, vous pensez à la survie. Vous pensez, nécessité, c'est forcément la survie. Peut-être qu'on vit dans une société dans laquelle on considère que d'autres choses représentent des nécessités qui justifient le fait de négliger les animaux. Donc vous allez poser la question, pourquoi est-ce qu'on ferait souffrir les animaux si c'est pas indispensable de la survie? Quelle autre nécessité pourrait exister dans cette société? Faut que je parle moins vite.
Merci.
Quelque chose qui pourrait être présenté comme une nécessité, on pourrait penser que dans cette société, le respect de la tradition est considéré comme primordial. Donc les gens vont vous dire, on ne fait pas souffrir les animaux sans nécessité, mais le respect de la tradition dans notre société est extrêmement important, on va faire passer les intérêts des animaux après cette question-là. Mais là, du coup, je présente un contre-exemple. Par rapport à la tradition, un contre-exemple, c'est ce qu'on appelle la codectomie. La codectomie, c'est le fait de couper la queue des animaux. Au niveau de l'os en quelque sorte. Donc c'est pas simplement esthétique, c'est une véritable mutilation. Et cette podectomie, elle était pratiquée sur les chevaux depuis le 18e siècle. J'ai un extrait de Wikipédia rapidement qui dit la podectomie c'est vraisemblablement généralisée au 18e siècle chez les aristocrates et les nobles. Après l'abolition des privilèges, tout le monde se met à couper la queue de ses chevaux pour paraître plus riche, mais également pour des raisons d'esthétisme et de mise en valeur de la musculature. Donc c'est quelque chose qui existait en France depuis le 18e siècle et qui était véritablement ancré dans. Qui était véritablement ancré dans la tradition, mais il se trouve que, grâce à la tristement célèbre Brigitte Bardot, en 1996, en tant que pratique qui faisait souffrir les animaux, cette tradition a été annulée. Donc, on a un cas où on a une tradition qui est forte, mais on décide de passer outre cette tradition pour le bénéfice des animaux. Et le cas inverse, on va aussi avoir le cas inverse, c'est-à-dire qu'on va faire le même tort qu'on a reconnu comme étant un tort pour les chevaux, puisqu'on a interdit, on va faire le même tort aux cochons dans les élevages intensifs. Et on ne s'est pas du tout justifié par cette tradition. Donc, on a d'un côté, on sait que c'est une souffrance puisqu'on est prêt à aller, on est prêt à négliger une tradition pour l'empêcher. Et pour autant, cette souffrance-là, elle arrive dans d'autres cas et elle n'est pas justifiée comment dire, ouais, je sais plus exactement ce que je veux dire avec ça. Parce que... Quoi ? Ok, ok. Du coup, la conclusion avec ce cas-là, c'est vraiment cette idée que peut-être que la tradition est importante dans cette société, mais il existe des cas où on accepte de faire passer les intérêts de l'animal après les traditions. Donc quand on parle de nécessité, c'est pas la nécessité à respecter la tradition, puisque c'est quelque chose que parfois on va décider d'abandonner. Une autre nécessité qu'on pourrait nous présenter, on pourrait imaginer, et ça quand je vais le dire ça va vous faire rire bien sûr, mais on pourrait imaginer qu'on est dans une société où le fait de maximiser la biodiversité, le fait d'avoir le plus d'espèces animales et végétales présentes dans la nature, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on va souvent entendre par exemple des éleveurs qui vont dire « Oui, mais vous vous rendez compte, si jamais on abolit l'élevage, on va perdre telle ou telle espèce qui sont les espèces émergées, ils vont dire au maximum et c'est une raison pour tuer des... » Enfin, on va continuer à tuer des animaux, parce qu'en tuant des animaux, on peut avoir une plus grande diversité, et c'est quelque chose qu'on va prioriser devant... On va mettre en priorité par rapport à la vie des animaux. Et du coup, un contre-exemple aussi par rapport à ça, là ce que j'ai emprunté c'est un loup d'après Google qui est du parc Yellowstone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire avec les loups et le parc Yellowstone, je vais vous lire un extrait. Qui dit « Lorsque les loups furent réintroduits en 1995, c'est l'écosystème entier qui s'est littéralement réveillé. De nouvelles espèces animales et végétales ont fait leur apparition et même la topographie des lieux s'est largement modifiée. » Donc, on sait qu'en introduisant des loups dans un écosystème, on peut avoir une diversification, une augmentation de la biodiversité. On se dit, effectivement, nous on sait que ça coûte de la vie à des animaux, et on imagine qu'une société qui veut maximiser la biodiversité, par exemple, les éleveurs qui sont très inquiétés par cette biodiversité, vont accueillir le loup à bras ouverts, même si ça coûte de la vie à certains animaux. Et en fait, vous vous attendez un peu, enfin j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est contradictoire, un communiqué de la coordination rurale, il me semble que c'était début mars 2017, qui dit « Si les associations écologistes montent au créneau au nom du bien-être du loup, aucune ne s'émeut du bien-être des animaux égorgés ni de celui des éleveurs. Belle actualité que ce raisonnement, contrairement à ce que pensent certains membres de ces associations, les éleveurs tiennent à leurs animaux et ne travaillent pas pour être maigrement indemnisés. » Donc, on a des... Oui ?
Un petit peu moins.
On a d'un côté des gens qui se présentent comme les défenseurs de la biodiversité, tant pis si on tue les animaux, mais en fait on a aussi un cas où ils pourraient augmenter la biodiversité, et là ils préfèrent faire passer la vie des... Enfin, ils considèrent que la vie des animaux ne doit pas passer après la biodiversité. Et la conclusion que moi j'en fais, c'est que les nécessités qu'on nous présente, quand on vous dit qu'on ne va pas tuer les animaux sur nécessité, et que c'est sur ce principe-là qu'on respecte dans nos sociétés, la conclusion que j'en tire, moi, c'est qu'on vous ment. C'est que c'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on vous dit comme ça, mais c'est pas de cette manière-là que les conflits entre les animaux et les humains sont gérés dans nos sociétés. Et du coup, c'est quand même une question qui nous intéresse pour comprendre comment notre société est structurée à ce niveau-là. Et du coup, là, je vais faire une petite et rapide étude sur les souffrances des animaux, leur contexte et leur réception. Quelles souffrances, dans quel contexte et reçues de quelle manière? On a vu que le fait qu'un animal soit tué dans un élevage, si c'est par un loup, c'est pas acceptable, c'est quelque chose qu'on veut prévenir, mais si c'est par un boucher, ça va être acceptable. Donc, c'est pour éclaircir ce genre de contradiction que je vais prendre les souffrances des animaux et voir selon le contexte comment est-ce qu'elles sont reçues. Alors, une première souffrance, un premier dégât qu'il fait à l'animal, c'est la mise à mort. La communauté française, pour cette mise à mort-là, le droit des humains à mettre à mort les animaux, il va être régulé en partie par l'article 655-1 du Code pénal qui nous dit le fait, sans nécessité, encore une fois, on a le mot nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le fait que ce soit puni par des contraventions, ça nous est égal. Ce qui compte, c'est que si jamais vous voyez quelqu'un qui va tuer un animal et que vous ne notifiez pas de nécessité, vous êtes légitime d'aller aller contre cette personne-là, et dans ce cas-là, la communauté va vous soutenir. Donc un cas que j'ai pris, par exemple, que j'ai trouvé sur un journal sur Internet, c'est pour avoir criblé de plomb une chienne, il prend 6 mois de prison avec sursis. C'est pas la prison qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que si vous étiez venu à ce moment-là avec cette personne-là qui vise ce chien-là, et que vous aviez réagi de manière proportionnée pour l'empêcher, la communauté vous aurait soutenu. Puisque c'est quelque chose que, etc., on voit que c'est quelque chose qu'elle ne voudrait pas permettre. Et du coup, on peut se dire, c'est chouette, effectivement, sans nécessité, on n'accepte pas de tuer des animaux. Mais vous allez avoir dans le droit également, j'ai pas trouvé les articles précis pour ça, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais dans le droit également, vous allez avoir ce qui s'appelle de manière très, très sombre l'euthanasie de confort. C'est-à-dire que n'importe quel propriétaire d'un animal domestique est autorisé en France à aller chez un vétérinaire, à demander au vétérinaire d'euthanaser cet animal, sans aucune justification. C'est tout à fait légal, vous n'avez pas de justification à donner, et le vétérinaire a le droit de tuer cet animal si son propriétaire l'en autorise, sans justification aucune. Et un autre cas dans le droit qui va à l'encontre de ça, c'est la cynophagie, le fait de manger du chien. En France, c'est une information Wikipédia, je n'ai pas trouvé ailleurs, mais je fais confiance à Wikipédia à ce niveau-là. En France, vous avez le droit, si vous avez un animal de compagnie, par exemple un chien, vous avez le droit de le tuer et ensuite de le manger. Wikipédia nous précise, en France, aucune loi n'interdit la consommation de chiens et de chats en France si l'animal est tué en respectant les règles d'abattage et d'hygiène prévues par le code rural. Ouais. Donc on est rassuré. Vous n'aurez pas pour ouvrir un restaurant qui vend de la viande de chien, ce sera uniquement dans le cadre privé, mais la suite c'est néanmoins des régimes juridiques différents s'appliquent à l'élevage d'animaux de compagnie et à l'élevage d'animaux destinés à la consommation. C'est-à-dire que si à côté de chez vous il y a un élevage de chien, il faut qu'il se déclare en tant qu'élevage pour des animaux pour la consommation pour pouvoir après les vendre à la consommation. Oui.
Je suis appris dans la vie nationale que les boucheries de chiens ont disparu en France depuis 50-55
ans. Oui, oui.
C'est très récent. C'est relativement récent.
Oui, mais le droit à ce niveau-là n'a pas changé. Moi, ma théorie, c'est que si jamais c'est interdit de vendre de la viande de chien en restaurant, c'est parce qu'il y aurait le risque en fait, que les gens aient tué des chiens pour après les vendre en restaurant. Alors que là, le droit uniquement, c'est votre animal à vous. Vous avez le droit de tuer, tant que vous le faites selon les règles de l'abattage, vous avez le droit, enfin pas vous, mais votre voisin, a le droit de l'animal que vous voyez tous les jours qui va promener, il a le droit le lendemain de le tuer selon les règles de l'abattage, de le cuisiner ensuite, et il aura de contrat à la personne. Donc on voit que cette idée de l'article 655.1 du Code pénal, il pose un peu des questions. Et le même genre de question vient se poser avec les souffrances infligées aux animaux. Pour les souffrances infligées aux animaux dans ces conflits-là, on va avoir l'article 521-1 du Code pénal, il y en a un autre, mais je vais citer que celui-là, qui nous dit « le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » Donc là, j'ai mis un extrait journal de la fable dont vous avez sûrement entendu parler, à Marseille, où un homme a été condamné à un an de prison ferme pour avoir jeté en l'air un chat et contre un mur aussi à plusieurs reprises. Donc, dans ce cas-là, on se dit effectivement, on est assez satisfait que cet individu n'ait pas le droit de faire n'importe quel service à cet animal. Mais vous avez trouvé dans le droit également qu'en fait ces sévices-là, qui sont d'un côté condamnés, sont autorisés si on propose une justification telle qu'une tradition ininterrompue. Et avec les corridas et les combats de coqs, c'est particulièrement troublant parce qu'il s'agit vraiment de la localisation. Si vous faites une corrida et vous torturez un taureau à 20 km, dans une arène où vous pouvez effectivement proposer une tradition ininterrompue, là vous avez le droit de faire souffrir le taureau. Mais si vous faites à 20 km et que vous ne pouvez pas justifier une tradition ininterrompue, vous n'avez pas le droit. Et là, à ce moment-là, c'est les intérêts du taureau qui vont passer en avant. Et pareil pour si jamais vous pouvez justifier ça avec la gastronomie française, de la même manière, vous n'avez pas le droit de. Enfin, il y a des souffrances que le canard va ressentir dans la production du foie gras qui ne sont pas autorisées si ce n'est pas pour le foie gras. Mais si c'est pour le foie gras, bon, bah, c'est pour le foie gras. Et après, il y a d'autres exigences qui ne sont même pas justifiées dans le droit français, comme le fait de couper le bec et la queue des. Le bec c'est pour les poules et la queue c'est par exemple pour les cochons. La castration à vif des porcelets, l'enfermement et la destruction des biens sociaux. Donc vous avez. C'est pas du tout encadré dans le droit français, la destruction des biens sociaux des animaux, vous n'avez pas à vous justifier, vous pouvez séparer les animaux de la communauté avec laquelle ils ont l'habitude d'être, et ça ne posera pas de problème à la communauté. Et du coup, à partir de là, moi je vais tirer d'abord des conclusions négatives. C'est-à-dire que le déterminant pour décider qui est dans son bon droit dans les conflits des humains et des animaux, ce n'est pas la nature ou l'intensité des souffrances. Les animaux, ils n'ont pas de droit qui dirait cette souffrance-là, elle est tellement grande qu'il n'y a pas de justification autre que, par exemple, la nécessité ou la survie. Il n'y a que dans le cas où il y a un enjeu de survie qu'on peut la causer. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer toutes les souffrances qu'on pourrait causer aux animaux. En fait, il existe un cas dans lequel notre société considère qu'il est juste de causer ces souffrances-là pour des intérêts qui ne sont pas fondamentaux. Et ça ne va pas non plus être avec l'espèce de l'individu, parce que justement, on peut imaginer que pour la plupart des torts que vous pouvez imaginer, comme la mort par exemple, vous pouvez tuer, enfin n'importe quel animal peut être tué, quelle que soit son espèce. Et effectivement, si jamais demain il y a un élevage de chiens pour la viande qui souffre, il va y avoir une réaction des gens, mais pas avec le droit. C'est pas le cadre légal qu'on s'est donné pour protéger les animaux. Et du coup, à partir de là, moi, je vais faire une conclusion positive en disant qu'on peut distinguer un critère général qui détermine si une pratique est acceptée ou non. Et pour énoncer ce critère, je vais reprendre le schéma de « on ne doit pas causer aux animaux de souffrances inutiles ou les tuer sans nécessité ». Et c'est assez sombre, mais je pense que la gestion de conflit entre les humains et les animaux pour l'État français, elle est gérée avec la règle suivante. On ne doit pas causer de souffrance à un animal dans le seul but de le faire souffrir, et il n'y a aucune restriction sur la mise à mort si elle est en. C'est-à-dire que dans l'État français, si vous voulez faire souffrir un animal, enfin si vous voulez tuer un animal, il suffit que ce soit le vôtre, et, ou que vous en ayez la responsabilité, vous avez le droit de le faire. Et si jamais vous avez un intérêt à faire souffrir un animal, tant que cet intérêt-là n'est pas simplement le fait de le faire souffrir, vous aurez, enfin vous allez pouvoir justifier. Et oui, ça nous permet de faire la distinction. Quand on dit nécessité dans le langage courant, quand on parle de ne pas faire souffrir les animaux sans nécessité, en fait, on parle pas de ce qui, dans le droit français, s'appelle l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est des circonstances que vous pouvez invoquer dans l'état français, où on va dire que vous avez le droit d'enfreindre la loi, si enfreindre la loi est l'unique moyen de faire face à un danger actuel ou imminent qui menaçait autrui ou un bien. Et du coup, cette nécessité-là dont parlent les gens quand ils parlent des souffrances qu'ils font aux animaux, c'est clairement pas cet état de nécessité de survie de caractère indispensable d'une violence. Et j'ai un extrait d'un rapport de la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2011 qui disait ça très clairement, et qui disait « On ne saurait nier que, de tout temps et en tout lieu, il se tue un grand nombre d'animaux domestiques, presque toujours élevé à cette fin, dont l'abattage répond à des besoins alimentaires en général, précautions sanitaires parfois, sans qu'il y ait à évoquer un danger imminent, une extrême contrainte ou une menace particulière, mort des animaux dont on pourrait finalement faire l'économie. » Donc, la Cour de cassation a statué sur le fait que, quand on parle de nécessité pour faire de tuer des animaux, c'est en fait pas une nécessité qui représentait un danger ou un besoin de survie. On parle en fait d'une autre nécessité. Et moi, cette nécessité-là, je l'entends comme... Enfin, moi, je pense qu'on va plutôt parler d'utilité. C'est-à-dire qu'en France, on ne veut pas que vous fassiez souffrir des animaux sans utilité, sans que ce soit pour satisfaire un besoin qui est en fait accepté par la société. Mais par contre, si c'est un besoin qui est accepté par la société, comme la gastronomie, le fait que vous en avez marre de votre chien, la tradition, des choses comme ça, ou le fait que vous n'avez pas la viande, là, la société vous dit allez-y, faites un peu ce que vous voulez. Et en France, il va y avoir deux morales alternatives à cette règle-là. Et je vais vous faire une petite devinette, je vais vous lire une citation avec un texte intro. Il va falloir deviner qui parle et de quoi est-ce que le texte parle. Donc je vous lis. Chaque jour, chaque minute en France, plusieurs milliers d'animaux sont victimes de pratiques qui relèvent de la torture et du supplice. Pourtant, les animaux ont obtenu début 2015 le statut d'être vivant doué de sensibilité, ce qui devrait les protéger de ces signes de souffrance. Mais visiblement, ce nouveau statut n'est que théorique et cela ne peut être en aucun cas satisfaisant. L'organisme en question milite avec méthode et systématisme pour lutter contre toutes les sources de maltraitance animale. L'organisme en question interpelle directement le gouvernement et plus largement l'ensemble des politiques sur ces situations de cruauté extrême, indignes d'une société qui se veut moderne et évoluée. La volonté de l'organisme en question est très claire. L'association ne lâchera rien jusqu'à ce que les animaux obtiennent gain de cause et que soient interdites ces pratiques abjectes.
Wellfarm ?
Non.
La FNSEA ?
Non. Et il faut deviner qui parle et de quoi ça parle. Donc effectivement, pour dire, c'est la 2014 qui parle de l'agriculture et des pratiques d'élevage.
Qui parle de politiciens.
Non, on parle quand même des animaux. Non, en fait, c'est la SPA qui dit ça.
Ah bon ?
C'est-à-dire que là, vous allez sur spa.com-engagement-éthique-combat-éthique, il y a cette déclaration-là, sauf que cette déclaration-là, elle parle de cinq choses qui sont très précises, qui sont la corrida, la production de fourrure, les animaux domestiques, l'abattage des nourrissons et l'expérimentation animale. Donc, on a un engagement extrêmement fort sur les pratiques abjectes, indignes de notre société, mais en fait, on parle d'un... Enfin, ça reste des souffrances abjectes, mais il y en a beaucoup d'autres dont la SPA décide de ne pas parler. Et malgré son systématisme et sa méthodologie. Et on va aussi avoir, je parlais d'euthanasie de confort avant, l'euthanasie de confort va également être dénoncée par tout mon ami, qui s'est pourtant jamais exprimé sur la mort des animaux dans d'autres cas comme l'élevage. Et du coup, je pense qu'on peut établir la manière dont les personnes qui sont dans la protection animale vont voir cette gestion de conflit entre les humains et les animaux, qui va être qu'on ne doit pas causer de souffrance à un animal si elle sert à un intérêt remis en question ou minoritaire. Et on ne doit pas les tuer si ça sert à un intérêt remis en question aux minoritaires. C'est-à-dire que dans la protection animale, on se sent légitime de déclarer que tel ou tel intérêt, qui n'est pas simplement faire souffrir l'animal, n'est pas une justification suffisante pour faire souffrir les animaux. Mais il reste plein d'intérêts qui sont des intérêts triviaux et assez des intérêts de plaisir, qui cette fois-ci ne vont pas être dénoncés par la protection animale. Et une autre alternative au niveau de notre morale alternative, ça va être le réalisme, qui va s'opposer aux mutilations appliquées par les industriels, au transport long, au broyage des poussins mâles, par exemple la castration à vide des porcelets, l'élevage industriel dans son ensemble quand il va contre l'intérêt des animaux, et les environnements pauvres pour les animaux d'élevage. Mais ces welfareistes vont aussi nous dire que si vous voulez manger de la viande, faites un peu ce que vous voulez. Ce qui compte pour nous, c'est qu'il n'y a pas de souffrance. Alors qu'en fait, on sait ici que l'élevage implique forcément des souffrances. Du coup, comment ça se fait que ce sont. Comment est-ce qu'on explique que ce sont ces souffrances-là en particulier que le welfareisme va dénoncer? Moi, je pense que c'est parce que dans le welfareisme, on a une autre vision des conflits humains-animaux qui va être la suivante. On ne doit pas causer de souffrance à un animal si elle sert des intérêts de rentabilité ou d'efficacité. Pas de restriction sur la mise à mort si elle est indolore. Et du coup, après. On ne peut pas vraiment parler des welfareistes parce que là, c'est des personnes qui s'expriment dans le cadre du welfareisme, on ne connaît pas leur avis sur la corrida et des choses comme ça. Mais on voit effectivement que ce n'est pas tant l'intérêt d'eux d'avoir de la viande, d'avoir du lait, d'avoir des œufs et des choses comme ça que les welfareistes vont remettre en cause, mais c'est le fait que pour avoir ces choses-là, on va causer plus de souffrance à l'animal que ce qui est indispensable. Donc il faut tuer un animal pour avoir de la viande. Les welfareistes ne sont pas contre ça, mais par contre ils sont contre le fait qu'on cause plus de souffrance que ce que le minimum nécessaire. Ils ne vont pas s'exprimer contre est-ce que ce minimum-là, est-ce que parce qu'il faut tuer un animal pour manger de la viande, est-ce que ça rend forcément le fait de tuer de la viande juste. Et du coup je pense qu'on peut établir une structure générale par rapport à ces positions-là qu'on a dans la société. On constate que le critère il n'est ni l'espèce ni l'intérêt de l'animal, mais en fait, moi je vais proposer que le critère ça va être l'intérêt de l'être humain qui est en jeu. Et donc je pense que cette règle là pour la gestion des conflits entre les humains et les animaux, elle va être définie avec la règle suivante qui est il est légitime de faire passer les intérêts fondamentaux des animaux après les intérêts triviaux des humains. Et en fait, le seul débat qu'il va y avoir entre les welfareistes, la protection animale et l'État français, ça va être quels intérêts triviaux sont des raisons valides. Cette règle-là ne va pas être questionnée. Bah, je veux dire qu'effectivement, il y a certains intérêts triviaux qui sont légitimes pour passer outre les intérêts fondamentaux des animaux, lesquels? Et du coup, avec ce point de vue-là, l'État va nous dire que tous les intérêts triviaux sont justifiables, sont d'une justification sauf le plaisir de faire souffrir, c'est ce qu'on va appeler la cruauté. La protection animale va se permettre de considérer quelques intérêts comme non légitimes, comme le divertissement principalement, le fait d'avoir la fourrure, l'expérimentation animale, une volonté scientifique dans quelques cas. Et le welfareisme, lui, va considérer que ni le plaisir de faire souffrir, ni la volonté d'avoir un rendement ou une efficacité plus importante dans l'élevage sont des justifications admissibles. Mais vraiment, le débat est cloisonné avec ces visions-là, qui est que la seule discussion, c'est quels intérêts triviaux sont justifiables. Le fait même de faire passer les intérêts triviaux des humains avant les intérêts fondamentaux des animaux n'est en fait jamais discuté. Et du coup, les conséquences de ce système de gestion des conflits entre les humains et les animaux est assez claire. En partant de là, la situation actuelle des individus animaux sera forcément désastreuse, puisqu'on a une société qui considère que lorsque les intérêts humains et les intérêts animaux sont en conflit, l'humain ou lui-même pourra négliger les intérêts de l'animal si le plaisir qu'il recherche est acceptable. Et du coup, la chair, les sécrétions, la peau, les systèmes biologiques dont sont constitués les animaux peuvent satisfaire de nombreux besoins humains. J'ai juste dit le divertissement, l'alimentation, la cosmétique, la recherche médicale, l'aliment, et ainsi de suite. Donc, une société suprémaciste aura donc une relation d'exploitation matérielle avec les animaux qui sera aussi étendue que possible financièrement. Partant de cette idée-là qu'il est légitime de faire passer les intérêts triviaux des humains avant les intérêts fondamentaux, il n'y a aucune raison que, partant de là, les animaux ne soient pas. C'est ce que je demande sous le coup. On va avoir plus de 200 millions d'animaux en France. 200 millions, c'est juste le cheptel des gros mammifères. Donc, le chiffre est forcément supérieur. Mais on va avoir 200 millions d'animaux, plus de 200 millions d'animaux en France, dont le confort, la liberté et la vie seront sacrifiés aux intérêts privés des humains, selon les bonnes règles avec lesquelles notre société va gérer ses conflits entre les intérêts privés des humains et les intérêts fondamentaux des animaux. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Je passe à la suivante.
Avec la possibilité de l'imprimer, ça sera pas mal. Ce sera pas mal à distribuer à certains.
Je l'ai pas dit, mais ça, en fait, c'est un. C'est un, c'est un Ça vient d'un...
C'est une publicité de Seb.
C'est une publicité de Seb qui a été trouvée par les gens qui ont publié la brochure en 89 qui s'appelle nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux. Tu vois, sûr que c'est exactement ça.
C'est ça.
Ok. Et du coup, ils avaient trouvé ça et c'est Seb qui vous dit regardez tous les individus que, dont vous allez pouvoir bénéficier avec votre super cocotte sèche.
Ouais, c'est vachement parlant.
Non, mais
juste ça, je sais pas, pour faire la distribution.
Et cette brochure est disponible en PDF sur le site de David
Olivier. Ouais. Et peut-être même sur l'application. Non. Je vais passer à la suite. Vous avez dû remarquer que jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps parlé des animaux et des humains. Et ça peut paraître contre-intuitif parce que nous, on a l'habitude de parler des humains et des animaux non humains. Et en fait, c'est parce que nous, on va considérer, quand on va parler des animaux, nous, on va considérer qu'on parle de la catégorie biologique. Et du coup, vous savez tous que, on a biologiquement, on va avoir une distinction entre, parmi les êtres humains, on va avoir les plantes, les autres êtres vivants, les champignons, les êtres unicellulaires, les bactéries, etc. Et que si vous n'êtes pas un champignon, ni une bactérie, ni une plante, vous allez dans la catégorie des animaux. Mais par contre, on voit bien que quand on parle de négliger les intérêts des animaux contre les humains s'excluent de la catégorie des animaux. Et en fait, moi je pense que c'est parce que ces catégories humains et animaux sont en fait pas des catégories biologiques, mais ce qu'on va appeler des catégories politiques. C'est-à-dire des catégories qui sont utilisées pour gérer les conflits en mode on a un conflit, de quelle catégorie faites-vous partie? À partir des catégories dont faites partie, on va établir comment est-ce que ce conflit devrait être géré. Et du coup, c'est le dessin que j'ai fait ici. En fait, je vais aussi faire ce que j'ai dit ici. Ces catégories humains et animaux réalisent une dichotomie et en même temps une hiérarchie entre tous les individus qui ont des intérêts subjectifs. Donc on parle du fait qu'on a des individus qui ont des intérêts subjectifs, on aura d'un côté les individus dont les intérêts fondamentaux ne peuvent être bafoués que si on présente des intérêts fondamentaux en face. Pour les humains, ça ne va pas être considéré comme justifié de dire « oui mais regardez, c'est une tradition interrompue donc je vais continuer de lui faire du mal ». C'est pas quelque chose qui va passer. Par contre, on aura la catégorie animaux sur laquelle les humains pourront justifier de négliger leurs intérêts fondamentaux uniquement si ils font partie de la catégorie des humains et qu'ils ont un plaisir qui est acceptable pour justifier cette souffrance. Donc on aura d'un côté les humains dont on respecte les intérêts fondamentaux et de l'autre côté les animaux dont les intérêts fondamentaux sont négligeables selon telle ou telle justification. Et par exemple, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une... À partir de cette catégorisation politique-là, je pense qu'on peut avoir déjà on peut envisager quel est le projet politique animaliste. Et pour expliquer ça, je vais citer Francis Wolff, un philosophe prospéciste très, très motivé. Lui, il va dire, dans une conférence par exemple, il va dire « Oui, mais si les animaux deviennent des personnes, alors les personnes deviennent des animaux. » En disant « Donc on peut négliger les intérêts des humains, simplement si on justifie. » En fait, lui, ce qu'il veut dire quand il dit ça, c'est que si on rend cette catégorie-là foreuse, si les animaux peuvent passer dans cette catégorie-là, alors forcément les humains peuvent passer dans cette catégorie-là. Et cette idée de la porosité de cette limite, elle se comprend. Mais c'est parce que Francis Wolff, dans ce cas-là, a une incompréhension totale de quel est le projet animaliste. À mon avis, le projet animaliste, c'est de supprimer complètement la catégorie des animaux comme une catégorie dont on peut négliger les intérêts. C'est-à-dire que le projet animaliste va être de dire qu'il n'existe pas un seul individu qui a des intérêts subjectifs, dont il est justifiable de négliger les intérêts fondamentaux au nom de plaisir de quelque autre plaisir d'un individu, d'un autre individu qui a des intérêts subjectifs. Et du coup, à partir de cette distinction politique, cette politique biologique, on peut dire, moi j'appelle cette distinction politique une abstraction réelle, dans le sens où, qu'est-ce que je dis par rapport à ça ? Une attraction réelle dans le sens où biologiquement c'est pas vrai que je sois un animal, enfin c'est effectivement je suis un animal, ce que j'ai dit ici, je suis ni une plante ni un champignon, donc je suis un animal. Biologiquement c'est indéniable. Par contre, si je me pose la question de politiquement moi, quelle est ma catégorie, je me rends compte que la société dans laquelle je vis ne veut pas accepter que mes intérêts fondamentaux soient bafoués au nom d'intérêts attribués d'un autre individu. Et du coup, je n'appartiens pas à la classe politique des animaux. Politiquement, je ne suis pas un animal, et je suis d'ailleurs bien content de ne pas être un animal politiquement, parce que sinon, ça aura des conséquences assez désastreuses. Et moi, je pense que cette distinction... est-ce qu'il y a ça ?
Ouais, c'est chouette.
Cette superposition biologique-politique, on va utiliser le même mot pour désigner deux choses, En fait, elle va créer une incompréhension entre les animalistes qui ont pour projet de supprimer cette catégorie politique animaux et qui du coup presque vont partir du fait qu'elle n'existe pas, et d'autre côté, des gens qui vont utiliser le terme animal pour désigner cette catégorie politique. Je vais citer quatre exemples où cette superposition biologique politique permet de comprendre des choses qui parfois sont confuses pour les animalistes. La première chose, c'est avec le fait que les groupes dominants revendiquent leur humanité. Moi, je pense que cette vision politique de ce que veut dire animal va nous permettre d'expliquer qu'on est des humains ou des humaines qui tentent autant qu'ils le peuvent de ne pas être classés dans la case animal. Parce que aujourd'hui, être classé dans la case animal, ça implique d'être mis dans une position dégradante où mes intérêts fondamentaux deviennent secondaires. Quand je revendique ma qualité d'humain, quand je revendique le fait que j'appartiens à la catégorie biologique des humains, en fait, ça va sécuriser mes intérêts fondamentaux, puisque faisant partie de la catégorie biologique des humains, on met dans la catégorie politique des humains et mes intérêts fondamentaux sont protégés. Et par exemple, là j'ai pris. Là dans ce cas-là, c'est la féministe Andrea Dworkin qui manifestait avec une pancarte avec marqué on n'est pas des animaux. Avec cette pancarte, elle ne dit pas on est des plantes. C'est pas ce qu'elle veut dire, elle dit pas on n'est pas des animaux, c'est parce qu'on est des plantes. Elle dit on n'est pas des animaux parce que en tant qu'être humain, nos intérêts fondamentaux vont compter. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à simplement dire on est des humains ou on n'est pas des humains. Et cette même lecture elle peut être faite autour de la polémique qu'il y a eu avec l'événement du 10 mai de 269 Life Libération Animale. Pour ceux qui n'en avaient pas entendu parler, l'association avait décidé d'organiser le 10 mai, qui est la journée de la commémoration de l'esclavage et de la terre négrière en France, de faire un événement qui allait dénoncer l'esclavage des animaux. Et en fait, on avait beaucoup de gens qui ont dit mais on n'est pas ne traitez pas comme des animaux, ça ne voulait pas les traiter comme des animaux. Et on a eu souvent, ça je crois que je l'ai. On a eu souvent mis voilà, cette réflexion-là qui était mais les animaux et les humains, c'est pareil, on est des animaux. C'est quoi le problème de dire que vous êtes des animaux? Il y a même, là j'ai un commentaire que j'ai trouvé sur Facebook sur le contre-communiqué désastreux que le premier qu'avait fait Tiffen. Et on a quelqu'un qui va dire comparer un homme noir ou pas à un animal n'est pas une insulte puisque nous sommes tous des animaux. Cette personne-là vient dire vous êtes des animaux, vous faites partie de la catégorie biologique des animaux, quel est le problème avec le fait de dire je vous en être? Et en fait, il y a quelqu'un ensuite qui a fait une réflexion que j'ai trouvée très pertinente, qui va dire, dans une société spéciste, comparer des personnes noires avec des animaux, c'est les déshumaniser. Déshumaniser, ça veut, c'est pas simplement dire, vous n'êtes pas des humains en termes biologiques, ça veut dire, vous n'êtes pas des humains, donc vos intérêts fondamentaux peuvent être négligés. Et cette personne-là continue en disant, c'est les déshumaniser, les rabaisser, quel que soit votre respect pour les animaux non humains, vous ne faites que reprendre le discours raciste qui refuse aux personnes noires toute dignité. Et, on va avoir des gens qui vont trouver que c'est intéressant. Moi, je ne vais pas discuter de la pertinence de comparer l'esclavage et l'élevage, mais par contre, la réaction de ces personnes-là qui disent « ne nous comparez pas à des animaux », elle est politiquement judicieuse, puisque en étant comparé avec des animaux, on est placé dans la catégorie politique animaux, et à partir de ce moment-là, on sait que nos intérêts fondamentaux peuvent être négligés. Un autre exemple où cette distinction politique-biologique va être pertinente, c'est dans le cadre de l'amour pour les animaux par ceux et celles qui les exploitent. Donc là, j'ai pris un article dans Libération d'un éleveur qui dit « j'aime les animaux, j'aime ma liberté », et c'est aussi un éleveur qui possède une cinquantaine vaches mères qui va inséminer artificiellement, et les veaux, ensuite, il va les encaisser jusqu'à maturité pour voir les vendre pour de la viande. Et là, ici, j'ai aussi mis la citation de Macron, Emmanuel Macron au congrès de la FNSEA qui nous disait « L'éleveur, c'est lui qui pleure quand un animal meurt, ce n'est pas les gens qui sont dans les associations ou dans les bureaux. » Nous, ça peut nous paraître bizarre. Et alors que je pense que cette distinction politique biologique, elle nous permet de résoudre la contradiction, puisqu'il ne s'agit quand les éleveurs ou Macron va dire ça, il ne s'agit pas du tout de dire que j'aime les animaux autant qu'individus qui ont leurs propres intérêts et dont je reconnais la dignité. Dans ce cas-là, ça n'aurait aucun sens de dire « je les aime et je les tue ». Mais en fait, moi je pense que quand il parle des animaux, il les considère bien en tant que catégorie politique, c'est-à-dire, il va dire « j'aime ces individus dont qu'on peut négliger si on a une bonne raison. Et je les aime en tant qu'ils font partie de cette catégorie politique-là. » Et donc, ils auront peut-être une attention particulière quand les animaux souffrent pour rien, comme des maladies, la faim et des choses comme ça, ou des blessures, mais par contre, ils ne remettront pas du tout en cause le fait de les tuer ou de les enfermer si ils considèrent que l'intérêt qu'ils font pour ça est justifiable. Aucun éleveur ne justifiera ne pourra justifier de dire « oui, mais j'ai laissé mes animaux en mauvaise santé et c'était pour rien, mais voilà, je l'ai fait. » Souvent, enfin, très rapidement, les éleveurs vont monter au créneau en disant « ah oui, mais il avait machin, il avait plus de sous, il avait... » Et ce sera jamais revendiqué comme quelque chose qu'ils font en mode « bah ouais, j'ai autre chose à faire. » Par contre, le fait de tuer ou d'enfermer, c'est pas quelque chose qui pose un problème, vu qu'on présente en face un intérêt trivial qui est considéré comme justifié. Un troisième point que je fais par rapport à cette catégorie politique, c'est par rapport à la capacité de prise de recul des individus. On peut être troublé quand on parle des animaux. Moi, par exemple, on parle des veaux et je dis que les veaux, je pense qu'on ne devrait pas les tuer. Enfin, même si le veau naît parce qu'il faut du lait, c'est pas une raison pour après de tuer le veau, il pourrait continuer à vivre sa vie tranquille. Et en fait, là, on va me répondre, mais du coup, il sert à rien. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est parce que quand on parle des animaux, les gens vont considérer qu'on parle des animaux en tant que cette catégorie politique qu'on peut exploiter. Ils vont pas du tout envisager qu'on nous on parle des individus. Effectivement, si on leur disait t'es un individu libre qui a des intérêts subjectifs qui veut vivre, ils diraient jamais oui mais ça sert à rien. Parce qu'on va montrer que ça sert à lui-même de continuer à vivre. Mais si on considère les animaux, là c'est j'ai mis du coup l'individu lambda, quand l'individu lambda va entendre le mot animal, il va toujours considérer qu'on parle de cette catégorie politique qui pour finir mérite. Et il est justifié de mettre dans cette de négliger les intérêts, et du coup ne va même pas envisager que nous, quand on parlait ça, on avait d'autres projets pour cet animal-là. Et enfin, un dernier point, ça va être sur ce qu'est le statut juridique des animaux. Je pense que cette vision politique versus biologique des animaux, elle va renverser l'analyse qui est classique en fait du statut juridique des animaux. J'ai deux exemples dans la communauté antispéciste. Dans une émission sur France Culture en février, on a Florence Borga, la philosophe qui s'intéresse à la relation, enfin, au statut des animaux dans la société, qui va dire que les animaux sont étrangement placés parmi les choses. Elle dit, mais pourtant on a des relations avec eux, on voit que ce sont pas des choses, mais ils sont placés parmi les choses, ce qui est étrange. Et Tiffaine Lagarde va aussi dire qu'en fait le statut de chose est un obstacle pour la libération animale. Tant que les animaux sont considérés comme des choses, ils pourront pas, on ne pourra pas reconnaître leur intérêt. Et en fait, moi ce que je vais te dire, c'est que je vais renverser cette analyse en disant que si on considère qu'appartenir à la catégorie des animaux implique une subordination aux intérêts de la catégorie humaine, la meilleure manière d'inscrire ces conflits dans le droit va être de considérer par défaut l'animal comme dénué d'intérêt, autant qu'une chaise ou une table ou une lampe, et ensuite de saupoudrer dans les textes de loi quelques intérêts comme la soif, la faim et la froid. Et le froid, mais du coup, vraiment pour le droit français, l'animal n'est pas un individu avec ses intérêts subjectifs et on devrait prendre d'abord sa subjectivité pour juger de ce qui lui fait du mal ou du bien, mais c'est simplement un objet qui peut avoir soif. Et du coup, il est mal d'affamer ou d'assoiffer cet objet-là en tant qu'il a ses intérêts-là, mais on ne va pas du tout considérer par exemple ses intérêts sociaux ou son intérêt à la vie ou son intérêt à la liberté. Parce que dans le droit français, on va vraiment être saupoudré ici et là des petits intérêts qui vont élever légèrement les animaux au-dessus de. Au-dessus des objets. Et oui, quelque chose que je veux dire par rapport à ça, je reprends une formule de Marx. Marx disait à propos du prolétariat révolutionnaire qu'il ne revendique pas un droit particulier vu qu'on ne fait pas un tort particulier mais un tort en soi. Et je crois qu'on peut avoir la même lecture pour la situation des animaux. Ils sont effectivement protégés de certains torts particuliers, donc la soif, la faim, le froid, le besoin de soins, etc. Et en fait, on va avoir la protection animale et les welfaristes qui vont vouloir qu'il y ait plus de ces intérêts particuliers qui soient présentés. Mais moi, je pense que le projet antispéciste, le projet politique animaliste, ça va être de déclarer qu'en fait, non, ces animaux subissent un tort en soi, en tant que par leur position politique même, ils vont être subordonnés à tous les intérêts tribunaux des humains qui sont totalement acceptés. Et du coup, on va avoir une grosse différence entre le projet animaliste et les autres projets pour les animaux, qui va être que nous, notre projet, ça va être de faire que, à la base, les intérêts des animaux sont considérés en tant que c'est leurs intérêts, et pas en tant qu'on doit dire « oui, mais cet intérêt-là, il est particulièrement important, les autres intérêts, on n'en parle absolument pas. » Oui ? Ah, je finis. Ouais, je vais passer à la partition si vous avez des questions sur ce moment. Quelque chose qui peut être troublant, du coup, ça c'est la lecture politique de la vision des animaux, sauf que parmi les opposants, les animalistes qui sont contre le traitement qui sont faits aux animaux, ils vont dire la principale chose, ça va être du coup l'étonnement, ça veut dire mais vous voyez bien que les animaux ne sont pas des choses, ça va être l'accusation de mensonge, le fait de dire mais vous mentez quand vous dites que vous aimez vos animaux, et ça va être le reproche de la non-concordance avec les faits observables. Donc on va nous présenter des excuses, on va nous dire des choses, on va dire mais vous voyez bien que la réalité ce n'est pas ça, pourquoi vous dites ça? Et je pense que les animalistes se concentrent beaucoup sur cette vision-là, parce qu'on va avoir une certaine vision de l'individu que je présente juste après, où en fait on va dire que on va avoir une vision où l'individu, c'est là où c'est petit, c'est là où il faut que je prenne les doigts. On va partir du fait qu'on a une société qui est composée d'individus dont la priorité, l'intérêt parmi au-dessus de tous les intérêts, va être celui d'agir moralement. Et effectivement, avec cette vision, on va considérer que si un individu a un certain point de vue, oui c'est vraiment tout petit. Hein. Si un individu a un certain point de vue et que ce point de vue est remis en question par un effet extérieur, une émission à la télé, quelqu'un qui lui parle dans un bar, un tract, quelque chose comme ça, il va réaliser que son point de vue ne relève pas de l'évidence, il se rend compte qu'il ne peut pas juste pointer du doigt et dire « mais si, regarde, les choses sont comme ça », et donc il va rentrer dans une phase de recherche et de réflexion pour établir la vérité. Comment est-ce qu'il va rechercher cette vérité-là? Il va essayer de rassembler, d'une part, les faits observables, ce qu'il faut voir dans la vie de tous les jours, et les faits rapportés comme la science ou ce qu'il va entendre des éthologues, par exemple. Il va prendre ces faits rapportés-là, il va les confronter aux principes moraux qu'il considère comme des principes moraux acceptables, et en confrontant ces faits et ces principes moraux, il va en sortir un jugement éthique, et le discours qu'il va nous dire sera une conséquence de ce jugement éthique. Donc, dans le cadre de l'exploitation animale, on va avoir quelque chose qui est assez similaire. On va avoir un individu qui est favorable à l'exploitation animale, qui trouve que les pratiques sont acceptables dans notre société. Il va remettre en question ces pratiques, qui va dire, par exemple, la viande, c'est pas quelque chose de juste, ou je pense que c'est quelque chose qui devrait être interdit. Sa priorité étant d'agir moralement, il va accepter le fait que la catégorie biologique des animaux n'implique pas une subordination. C'est pas possible de pointer du doigt quelque chose dans la nature et de dire, mais regardez, c'est évident, par exemple, cet animal n'a pas d'intérêt, ou alors, quand je mange de la viande, c'est parce que sinon je vais mourir. Il se rend compte que les choses sont plus complexes que ça. On prend les animaux libres, a priori, les animaux sont des individus qui, en eux-mêmes, n'impliquent pas qu'on les exploite, et donc, pour justifier l'exploitation, il faut dérouler un certain raisonnement. On va avoir une recherche, une réflexion pour établir la vérité. Donc, quels faits on peut invoquer pour l'élevage et pour le traitement des animaux, et quels principes moraux? Et du coup, pour avoir un jugement éthique et ensuite un discours. Donc, dans ce cas-là, avec des individus comme ça, pour finir, le combat animaliste est assez simple, parce que, comme l'a dit Martin Gilbert il y a 2 ans ici, la bataille des arguments est gagnée. C'est-à-dire que si on prend aujourd'hui, si on prend les faits observables par dans la vie de tous les jours ou par la science, c'est les principes moraux qui sont acceptés d'un point de vue global, aujourd'hui, on en arrive à un jugement éthique qui va être qu'on ne devrait pas négliger les intérêts fondamentaux des animaux pour des intérêts privés. Ce n'est pas justifiable avec les faits observables et les principes moraux que les gens sont prêts à défendre dans tous les cas. Et du coup, beaucoup d'animalistes vont avoir comme but. Vont considérer qu'en fait, si les personnes ont un jugement éthique et un discours qui va être prospéciste, c'est simplement parce que ils ont les faits observables, les faits rapportés et les principes moraux qui sont types ne sont pas les bons. Donc la mission, ça va être de dire, mais regardez, vous ne prenez pas les bons faits, on va parler d'éthologie, on va parler de le fait que c'est pas nécessairement générateur de tous les animaux, on va parler du fait que la tradition, c'est pas un principe moral individuel, regardez, on va vous montrer que c'en est pas un, l'appel à la nature non plus, On va s'attaquer à tous ces. La biodiversité non plus, c'est pas non plus un principe moral acceptable, et on va décider de s'attaquer à ça. Mais moi, le début de ma présentation était justement pour montrer que je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut dire, on n'est pas dans une société dans laquelle les faits qui mèneraient au jugement éthique de l'antispéciste seraient cachés déjà. Si quelqu'un cherche, si on dit à quelqu'un non, je pense que tu te trompes, il peut effectivement aller chercher ces faits-là, et il verra qu'il n'a pas pris les bons faits. Pareil pour les principes moraux. Il n'y a aucun. Les principes moraux qui sont utilisés pour défendre l'élevage sont des principes moraux que ces personnes-là n'appliqueraient pas au reste, en fait. Et ce ne sont pas des choses dans lesquelles ils croient. A priori, si on leur demandait quels sont les principes moraux pour gérer les conflits, ils ne diraient pas la biodiversité. Ils diraient effectivement les mêmes choses que nous on va dire, le fait de ne pas causer de souffrance sur les sociétés, le fait que. Typiquement, la morale qu'on a entre humains, en fait, le fait de ne pas faire passer les intérêts privés avec les intérêts fondamentaux entre humains. Et du coup. On pourrait dire que c'est bien d'être individuel. On a une bonne partie de l'animalisme qui va dire, mais c'est en fait parce que les gens, ils en arrivent ici, ils voient que c'est moral, que c'est mauvais, mais malgré cela, ils vont défendre l'élevage. Parce que c'est des personnes insensibles, des personnes qui n'ont pas de cœur, des personnes cruelles, et ainsi de suite. Mais je pense que c'est pas. On n'explique pas une société avec des traits individuels comme cela. Il ne me semble pas que ce soit une vision qui peut en plus stratégiquement qui est demandée. Oui, c'est pas une vision que je considère comme une quoi. Et du coup, moi, ce que je vais proposer, c'est une autre vision de l'individu. Avant, ce que j'aurais dit, moi, c'était simplement qu'en fait, pour moi, la morale, en fait, les gens, ils s'en fichent. Il y a certaines personnes qui vont dire que la morale, ça compte pas pour les gens. Pour finir, à aucun moment, les gens se soucient d'agir moralement. Mais en fait, j'en ai discuté avec Adrien et je ne serais pas aussi clair que ça que les gens ne s'intéressent pas du tout à la morale. Mais d'une part, je me rends compte que pour dérouler mon raisonnement, j'ai pas besoin de considérer que les gens ne sont pas du tout morales. Tout ce que j'ai besoin de considérer, c'est que les gens, ils ont d'autres intérêts qu'agir moralement. C'est qu'en fait, parfois, les humains vont considérer qu'il y a des choses qui sont plus importantes qu'agir moralement, et du coup, ils vont prioriser ça. Ils vont mettre ces intérêts en priorité.
Faut que tu
ralentis
encore, si c'est possible.
Surtout là.
Oui.
Moi, je vais avoir une vision d'individu, on va considérer qu'il est possible que cet individu et d'autres intérêts qu'agir moralement. Et il est possible qu'ils mettent en priorité ces intérêts-là par rapport à la morale. Et du coup, si on a un individu qui est dans une position de domination qui bénéficie du statu quo, au moment où on va remettre en question cette domination, il va d'abord réaliser que cette remise en question de sa position de dominant ou de dominance, ah, là il peut y avoir marqué sur les dominants, excusez-moi, sa position de domination va être remise en question. Il se rend très bien compte que quand on remet en question cette position de domination, il a un intérêt matériel et psychologique à dominer d'une part, et surtout pas mal dans notre société, il a un faible intérêt à remettre en cause les dominations. Parce que c'est assez indéniable que les gens, quand on leur dit mais vous vous rendez compte, vous avez un traitement injuste avec les gens, on n'a pas une ferveur morale à tout de suite vouloir en savoir plus. Et en fait, partant de ces intérêts-là, partant que effectivement l'individu aura un intérêt à explorer sa morale, mais il va avoir un intérêt plus grand à protéger ses intérêts matériels et psychologiques. On va en fait ne pas aller vers la recherche de la vérité, mais simplement vers la recherche d'une recherche et une réflexion pour esquiver la question. Le but de l'individu, il va décider, pas lui, mais la décision qui va être prise dans ce cas-là, ça va être de choisir de ne pas se confronter à une recherche de la vérité, mais simplement rechercher des arguments pour esquiver la question. Et du coup, dans ce cas-là, on va invoquer des faits et des principes moraux tolérés dans ce cadre de cette domination. C'est quelque chose qui est très particulier dans les discours dominants, c'est qu'il y a certains faits qui vont être appelés pour traiter un individu, mais qui en fait, des principes moraux, par exemple, qui ne vont pas du tout être transposables à une autre population. Un exemple que je peux donner, c'est qu'on va considérer que pour les enfants, c'est important qu'un enfant à 20 ans, il connaisse la géographie, l'anglais et les mathématiques, donc c'est justifiable de le menacer, lui ou ses parents, pour qu'il aille à l'école ou qu'il apprenne ces choses-là, qui sont extrêmement importantes, de la biologie, les mathématiques ou l'histoire. Mais par contre, personne ne va considérer que si vous avez 20 ans et que vous ne connaissez pas l'histoire et la géographie, il est légitime de vous enfermer ou de vous menacer pour que vous l'appreniez. C'est pas... On va considérer, enfin, quand je dis que c'est des principes moraux qui sont tolérés dans le cadre de cette domination, on considère pour les enfants qu'il est légitime de les menacer pour qu'ils aient ces connaissances-là, mais quand vous avez 20 ans, on considère que c'est plus, personne ne va faire appel à cet argument-là pour vous menacer. Et la production avec cette recherche et réflexion, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la production d'un discours qui sera faux dans le sens où c'est pas, il ne va pas être soutenu par des choses dans lesquelles la personne croit, un discours faux ou sans rapport avec la question pour l'esquiver. Et pour finir, vous avez pu témoigner ça dans les cas du spécisme, mais aussi du sexisme et du racisme. La personne en face vous a donné un argument qui n'avait soit rien à voir à la question, soit qui était basé absolument sur rien de soutenable, mais cette personne-là reçoit une grande satisfaction. C'est-à-dire que, surtout si vous êtes la seule personne à remettre en question, cette personne-là, elle vous regarde. C'est pas de vous qu'elle cherche elle va pas chercher en vous la confirmation de ce qu'elle a dit était correct. Elle va regarder ailleurs, en fait. Elle va regarder dans l'ensemble social dans lequel elle est. Est-ce qu'elle peut dire des choses aussi stupides que ça, et est-ce que ça passe? Et souvent, ça passe. Qu'est-ce qui se passe si on considère une société spéciste qui va être composée d'individus pour ce fonctionnement-là? On a un individu qui soutient, enfin, simplement parce que c'est un humain, il a un intérêt à soutenir la suprématie humaine a priori. On va remettre en question la suprématie humaine, il va se rendre compte que sa position de dominant, elle est remise en question. Tout de suite, il va penser volontairement aux intérêts matériels et psychologiques qu'il a à dominer les animaux, qui sont des intérêts nutritionnels, gustatifs, divertissement, au niveau des règles de construction, par exemple, des choses comme ça, où il va tout de suite, ça va être très très accessible pour lui, toutes les choses qu'il va plus pouvoir faire si jamais cette suprématie humaine est remise en question. Et on va toujours considérer que dans nos sociétés, les gens ont un faible intérêt à remettre en cause les dominations, et du coup, il va passer à cette recherche et réflexion pour esquiver la question, il va chercher des principes et des faits et des principes moraux qui sont tolérés dans le cadre de la suprématie humaine. J'ai un exemple par rapport à ça pour ces faits et principes moraux, où on a parlé de ça, c'est dans le livre de Thomas Le Pelletier, où il fait une analyse assez complète des discours pour défendre l'élevage, où on va avoir Francis Wolff qui va dire que les hommes sont les seuls êtres qui agissent au nom des valeurs et s'imposent des devoirs, et donc que les devoirs que les hommes s'imposent vis-à-vis des autres hommes, que les devoirs que les hommes s'imposent vis-à-vis des autres hommes deviennent pour eux des droits dans la mesure où ils sont réciproques et universels. Pas de chance pour les animaux, comme ils ne formulent pas de devoirs envers nous ni entre eux, Wolff en conclut qu'ils ne peuvent pas avoir de droits. Donc, il sollicite cet argument moral pour dire que, du coup, les animaux ne devraient pas avoir de droits. Mais en fait, on se rend compte que Thomas Lapidus nous dit aussi que quand Francis Wolff, on met face à ce qu'on appelle les cas marginaux, donc des humains qui n'ont pas non plus la capacité de s'engager pour des devoirs, Francis Wolff va nous dire que nous devons accorder des droits à ces cas marginaux, à ces humains qui n'ont pas la capacité de s'engager pour des devoirs, en disant « nous les reconnaissons comme faisant partie de la communauté humaine ». Cela revient à abandonner le principe selon lequel seuls les êtres qui s'imposent des devoirs ont des droits. C'est un argument qu'il n'utiliserait jamais dans le cadre pour justifier les négligences des intérêts des humains. Mais on vit dans une société dans laquelle si vous dites ça pour les intérêts des animaux, ça passe. C'est pas, mais parce qu'au départ, on va considérer que, moi c'est la suppression que je fais, c'est parce qu'au départ, cette personne-là a une position qui elle soutient la suprématie humaine. En fait, à aucun moment, elle en est passée par la position naïve qui est considérée effectivement biologiquement rien n'implique. Prenons simplement un individu qui a des intérêts et définissons comment est-ce qu'on va les traiter. On va partir du fait que les animaux sont d'une classe, qui de toute façon qui légitime de subordonner. Du coup, partant de cette vision-là, on va avoir, nous en tant qu'antispécistes, on va se dire que la principale chose qui nous dérange, c'est ce discours-là. C'est-à-dire que dans une décision collective, on peut typiquement prendre le cas de l'Assemblée nationale, si les gens ils étaient vraiment pas contents qu'on remette en cause leur domination et qu'ils recherchaient mais qu'ils gardaient un peu dans leur tête en mode oui mais on est les meilleurs qu'on pourrait continuer à dominer, s'ils se taisaient, on peut espérer que les animaux accéderaient à des droits. Si personne n'osait présenter des arguments aussi stupides que les prédicts, la carotte et des choses comme ça, cette société-là, on en arriverait à bon bah. On a fait cette réflexion-là, effectivement, les animaux ne méritent pas d'être religieux. Et c'est pour ça qu'une des stratégies que moi je. Enfin, une des façons d'attaquer un système politique, ça va être d'affaiblir la défense. C'est-à-dire qu'au moment où ce système-là politique est attaqué, les individus. Comme j'ai dit, nous, notre but, c'est que les gens n'en arrivent pas là, mais en fait, ils arrivent ici. Parce qu'on sait que si ils prennent une position naïve et effectivement ouverte, on va en arriver à une position antispéciste. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils en arrivent ici plutôt que là? On pourrait dire, par exemple, on peut réduire leur intérêt matériel et psychologique à dominer les animaux. Donc, le fait de développer de la super bonne nourriture végane, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens, si pour l'instant ils se disent que mon intérêt matériel à donner des animaux c'est juste pour ne pas manger que des graines, et bien quand si on leur montre qu'en fait il n'y a pas à manger que des graines, cette chose-là va devenir moins puissante. On pourrait également se lancer dans un projet de société anarchiste où on veut égalitariste, où on veut susciter chez les gens un énorme intérêt à remettre en question les dominations. À ne plus tout simplement dire oui je domine mais il y a sûrement des malheureux pour ça. Le souci c'est que ces deux choses-là, ça va être des choses que moi je vais appeler internes à l'individu, qu'il va falloir changer dans chacun des individus pour qu'on ait plus ce phénomène-là. C'est pour ça que moi je vais me concentrer sur ce que je vais plutôt appeler des facteurs d'environnement, comme par exemple les faits et les principes moraux tolérés auxquels les gens vont faire référence. Ces faits et ces principes moraux tolérés, ils ne sont pas une création de l'individu qui fait référence. C'est-à-dire que la personne qui. La personne qui va invoquer le lion et la gazelle pour écarter l'antispéciste, il n'a pas fait des recherches à ce niveau-là. Il n'a pas distribué des tracts pour dire regardez le lion et la gazelle et des choses comme ça. C'était un fait qui était déjà présent dans son environnement social et il avait déjà vu ce fait-là qui avait été invoqué et qui avait marché. Il se dit bon, bah, je vais prendre celui-là, ça va marcher. Et du coup, si on veut affaiblir la suprématie humaine, à mon avis, il faut affaiblir sa défense et d'abord, enfin. Ça veut dire qu'il faut d'une part connaître quelles sont ces défenses-là qui sont amenées et d'autre part comprendre comment est-ce qu'on fait pour qu'elles soient plus justifiables. Un exemple que je peux donner par rapport à ça, c'est ce que Yves va dire par rapport aux vidéos de 1914. Il va dire qu'en fait, un des principaux effets des vidéos de 1914, c'est qu'après ces vidéos, plus personne ne peut socialement affirmer que les animaux n'ont pas de sensibilité sans qu'ils soient raillés instantanément. Donc on a des gens, ce qui m'intéresse avec ces visions-là, c'est qu'en fait on va avoir des gens qui ne sont pas antispécistes, qui ne considèrent pas qu'il ne faut pas manger de viande, pas manger d'aliments, ainsi de suite, mais qui, quand un argument prospéciste va être avancé, vont simplement, parce qu'ils ont un intérêt à pas laisser des stupidités passer, tout simplement vont dire ben non mais ça c'est pas un argument valable. Ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver, c'est pas dire que ces arguments ils vont chercher s'ils sont valables ou pas, mais celui-là, là, ils vont se dire que c'est quelque chose qu'on ne va pas laisser passer, on ne va pas laisser faire. Et là j'en ai cité quelques-uns. Par exemple, la B12, c'est quelque chose qui est souvent présenté pour. Enfin, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces choses-là, elles ne sont pas invoquées pour justifier quoi que ce soit, elles sont invoquées uniquement pour clore le débat. C'est-à-dire qu'on va considérer que, ok, vegan, les animaux, c'est génial, mais manger des médicaments, c'est vraiment quelque chose d'horrible, donc la B12, c'est horrible, donc allez, on ne parle pas de choses. Et une partie du projet politique animaliste pour aller au-delà de la suprématie humaine, ça va être de comprendre d'une part quels sont les faits qui sont invoqués, quels sont les plus puissants, quels sont ceux qui reviennent le plus souvent, et d'autre part comment est-ce qu'on peut les attaquer. Donc un exemple de la B12 par exemple, c'est comment attaquer le principe de la B12. Quelque chose que je dis souvent, c'est qu'on pourrait dire que les gens ne savent peut-être pas forcément que le sel est supplémentaire en iode. C'est-à-dire qu'on a des besoins, On a des besoins individuels, mais ce n'est pas un besoin qui va être satisfait dans notre alimentation, dans toutes les alimentations. Et collectivement, on a décidé qu'on allait supplémenter le sel en pour que ce besoin-là soit satisfait. Donc en fait, quelque chose que les gens vont présenter comme un changement radical qui va être le fait de supplémenter, c'est quelque chose que nous on peut présenter comme quelque chose de pas si radical que ça, au final. Et du coup, cet argument-là qui était utilisé pour dire « Ah oui, moi je serais bien moi je suis pas vegan parce que les vegans, c'est des gens qui aiment bouffer des médicaments et moi j'aime pas », en fait, on va pouvoir refermer ce gouffre-là pour dire que non, en fait, c'est juste un argument qui est invoqué pour écarter la question animale. C'est pas un argument qui se tient, c'est pas un argument qui a un rapport avec la réalité. Et là, j'en ai dit d'autres, hein, typiquement la complicité des animaux et des éleveurs. On va souvent dire que oui, mais les animaux, c'est ceux qui prennent soin des animaux. Et ce serait par exemple intéressant de faire une liste de, dans la vie d'une vache, quels sont tous les moments où l'éleveur peut faire passer ses intérêts avant les intérêts de l'animal. Parce que les éleveurs sont très très prompts pour dire, mais regardez, là je prends soin, et ainsi de suite. Mais nous, on ne sait pas, s'ils faisaient que en prend soin, nous, ça ne nous dérangerait pas. Le souci, c'est qu'il y a des moments où les intérêts de l'éleveur et les intérêts de l'animal vont être en contradiction, et c'est les intérêts de l'éleveur qui vont plus. Donc ça, c'est une proposition stratégique, c'est de comprendre quelles sont les défenses, avec quelles armes est-ce que ce système-là se défend, quelles sont les plus souvent invoquées, et comment est-ce qu'on peut les attaquer. Ah oui, la capacité pénale des animaux, par exemple, Francis Wolff, il va dire, dans une conférence, il va dire, texto, vers mon proche, le jour où un sanglier me colle un procès, j'arrête de manger du pâté. Ah, donc il va dire ça. Quand il dit ça, ce qu'il veut dire, c'est que c'est effectivement, en fait, il réduit le fait d'avoir des droits au fait de pouvoir être représenté pénalement. Il se base sur le fait que les gens ont cette vision étriquée de quel est le droit, et uniquement parce que les gens considèrent, enfin, parce que les gens vont, pendant un court instant, considérer qu'effectivement, c'est que si vous pouvez vous défendre devant un tribunal que vous pouvez avoir les droits, cet argument-là passe. Alors que moi, je pense qu'une manière d'attaquer ça, par exemple, ce serait de présenter le principe de la tutelle. C'est quelque chose qui est aussi fait dans le cas des enfants, c'est-à-dire que les enfants vont beaucoup souffrir du fait qu'on considère que si vous n'êtes pas capable de défendre vos droits, vous n'en avez pas. Alors que le régime de la tutelle, le principe de l'avocat des animaux, par exemple en Suisse, permet de passer outre sur ces choses-là. C'est-à-dire que les animaux ont des intérêts qu'ils ne peuvent pas défendre eux-mêmes devant un tribunal, mais regardons, on a déjà cette chose-là qui est là. Et du coup, si jamais on avait une audience qui n'est pas antispéciste, mais qui connaît le projet antispéciste de ces avocats des animaux, de ces représentants des intérêts des animaux, Francis Wolff dit ça, il passe pour un débile. Parce que tout le monde pense juste au fait que mais non, mais tu dis ça, mais c'est parce que tu as oublié ce truc-là. Donc voilà, ça c'est pour affaiblir la défense. Mais par contre, si on affaiblit la défense et qu'on n'attaque jamais, ça sert à rien. Et c'est une chose que moi je propose ensuite, c'est qu'un autre, un autre aspect de cette composition de la société sur laquelle on peut se concentrer, c'est la remise en question de la suprématie humaine. Quelles sont les choses que nous on peut provoquer dans la société de manière à ce que ça appelle forcément, que les gens soient obligés de trouver des justifications. Puisque nous, notre but c'est qu'ils arrivent ici. Et déjà, il faut provoquer cette descente-là. Il faut qu'ils se sentent obligés de justifier leur pratique et leurs principes moraux pour ça. Des manières de. Pour évaluer ces remises en question et l'efficacité de ces remises en question, il faut tout simplement voir quelles sont les actions que les animalistes font et en fonction des actions, à quel point est-ce qu'il y a une réponse qui est générée de notre côté, à quel point est-ce que les gens qui défendent les vaches sont obligés de ne pas laisser passer ça et de tout de suite défendre ce qu'ils font. Les intrusions de 269 lives par race animale peuvent être un exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que si on avait trop, si on avait beaucoup, ou si elles touchaient particulièrement le public, il faudrait qu'en face, des gens disent « Ok, ils disent justice pour les animaux, mais voilà pourquoi ils sont stupides. » Un autre exemple, par exemple, c'est les marches et les manifestations. Il y avait 5000 personnes à la marche pour la fermeture des abattoirs. C'est quelque chose qui est facilement ignorable. C'est facile d'aligner les gens en disant « Mais oui, mais regardez, ces gens qui ont une morale bizarre et tout. » Si on arrivait à 10 000, 20 000, 200 000 personnes, c'est difficile de dire « Ces 200 000 personnes sont complètement stupides. » Ou en tout cas, il faudrait mettre quelque chose derrière. C'est ce qu'on voit pour les manifestations dans le cadre du droit du travail. On ne va pas dire « Mais ils sont débiles, mais regardez, de toute façon, ils ne sont pas comme nous. » On va dire « Ils ont des arguments, nous, on doit contrer leurs arguments. » Et un exemple auquel j'ai pensé hier et que j'aurais pas pensé comme ça, c'est le principe du mois sans viande. Je ne sais pas si vous avez remarqué, apparemment le mois de mars avait été déclaré mois sans viande par certaines associations animalistes, et peut-être même des écolos, ça ne m'étonnera pas. Et en fait, j'ai été très surpris de voir que cette initiative du mois sans viande a suscité énormément de réactions, beaucoup d'articles qui disaient pourquoi est-ce que c'était quelque chose d'inacceptable. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis obligés d'aller dans la République et de dire pourquoi est-ce que un mois sans viande, c'était pas une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'en fait, manger de la viande, c'était correct, des choses comme ça. Et du coup, ça, c'est des choses qui vont provoquer une réaction de la part des gens qui veulent défendre l'élevage. J'ai mis deux exemples en dessous qui ne concernent pas la libération animale, mais qui peuvent quand même être intéressants. D'une part, c'est la pétition que 30 millions d'avis avaient lancée en 2015 pour le fait de reconnaître que les animaux étaient des animaux de sensibilité. C'était quelque chose qui était assez, assez inoffensif d'un point de vue de la suprématie humaine, mais en attendant, ils ont réussi avec 80 000 signatures à faire que le gouvernement ne pouvait plus négliger cette chose-là. Donc on peut imaginer que c'est effectivement une bonne chose pour la suprématie humaine de considérer les animaux comme des objets et de dire que ce ne sont que des objets, mais en fait, dans ce cas-là, avec l'action de 30 millions d'amis, on a eu des individus qui voulaient soutenir la suprématie humaine, mais qui ont choisi qu'en fait leur intérêt à se montrer comme des gens qui sont à l'écoute du peuple, etc., était plus important que leur intérêt à protéger la suprématie humaine. Et l'arrêté de Sylvain Morel, je suis là pour dire que c'est aussi quelque chose qui a suscité la réaction. Avec son arrêté sur son arrêté ou sa loi, je ne sais pas les termes exactement, sur les delphinariums, les delphinariums sont maintenant obligés d'expliquer pourquoi est-ce que ce qu'ils font, c'est justifié. Alors que tant qu'on ne les remet pas, tant qu'ils ne sont pas remis en cause, ils n'ont pas besoin de se justifier, et on ne va jamais pouvoir voir si leurs justifications sont légitimes ou pas. Mais même si ce n'est pas quelque chose qui concerne la libération humaine, c'est quelque chose qui doit susciter une réaction, et les gens sont obligés d'expliquer pourquoi est-ce qu'eux considèrent que c'est légitime. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, au niveau de l'individu, c'est ça. Quand au niveau de l'individu on est arrivé à ça, si on arrive à neutraliser complètement ces arguments, si on arrive à faire que de dire, si quelqu'un qui dit oui mais c'est important de continuer à exploiter des animaux à cause des prairies, si quand cette personne dit ça elle est écoutée autant que quand quelqu'un va dire oui mais les animaux ils ressentent rien, on va plus, si on arrive à ce point-là, aucun des arguments n'est acceptable. Donc en fait, les arguments, quand vous les présentez, même les gens qui ne sont pas antispécistes vont dire « Ah oui, mais ça, c'est pas un argument qui est valable. » Parce que tout de suite, les gens disent « Ah oui, mais tu dis ça, mais dans ce cas-là, typiquement avec les avocats des animaux, tu dis qu'ils n'ont pas de droit, mais en fait, c'est possible. Il y a une sortie à ta question qui n'est pas une sortie qui mène vers pourquoi on exploite les animaux, mais qui est une sortie qui mène vers la question de l'exploitation des animaux est toujours ouverte. » Et du coup, ça fait que dans le cas d'un individu, si on remet en question la suprématie humaine et qu'il se trouve dans cette position-là, il va y aller forcément parce qu'il les attaque, il se trouve là, il n'a rien à dire. Et j'ai un exemple là-dessus que Le Pelletier il va expliquer, il va nous dire, en octobre 2015, sur BFM TV, le journaliste Jean-Jacques Bourdin s'entretient avec Brigitte Bautière après la diffusion d'images prises dans les abattoirs d'Alès. Son interlocutrice commence à lui expliquer que ces images ne sont pas propres à cet abattoir et reflètent une situation générale. La mise à mort des animaux dans les abattoirs ne se fait jamais sans cruauté, les animaux résistent, sont paniqués, se débattent, tentent de s'échapper et souffrent quand ils sont étourdis ou tués. Bourdin reconnaît que les images de l'abattoir sont effroyables et qu'il faut dénoncer ces mauvaises conditions d'abattage. Il tient à affirmer sur un plan condescendant son désaccord avec l'objectif de l'association de mettre un terme à la consommation de viande. Sans se démonter, son interlocutrice lui demande alors s'il considère que faire du mal à quelqu'un sans nécessité, c'est juste. Bourdin ne peut que reconnaître que c'est injuste. Poussant à son avantage, son interlocutrice lui demande s'il est juste de tuer les animaux qui sont des êtres sensibles qui ont envie de vivre. Mais cette fois-ci, Bourdin refuse de répondre, désemparé, pris au piège de la logique, il coupe court à la discussion et passe à autre chose. Donc on est arrivé dans un cas où Brigitte Gauthier, elle a réussi à maîtriser complètement le sujet, de manière à ce que elle a préparé le terrain, elle a donné des faits, elle a exclu certaines choses comme le fait que c'était pas grave pour les animaux d'aller à l'abattoir, choses comme ça. Elle a affaibli cette partie-là et après elle pose directement la question en disant mais du coup est-ce que vous pensez que c'est légitime? Jean-Jacques Bourdin, il en arrive là, il a rien. Donc en fait, il va sur ce point-là, il va se taire, il va même pas y répondre. Il présente même pas de contre-argument à cette chose-là. Il en a pas. Si tous les arguments qu'il pourrait avoir, il serait nul à ce point-là, puisque Brigitte Gauthier a préparé le terrain pour qu'il se présente pas. Et dans ce cas-là, lui, il esquive la question. Et il se permet d'esquiver la question parce qu'il est journaliste, parce que Brigitte Gauthier est là en invité, elle ne peut pas se permettre de pas. On m'a dit pourquoi est-ce que Brigitte Gauthier n'a pas réinsisté. Oui.
Ouais, en fait, l'argument il y a, parce qu'il se trouve que j'écoute régulièrement Bourdin. Et très régulièrement, il dit qu'il adore la viande, etc. Son argument, c'est qu'il aime la viande. Sauf que là, il ne s'est pas senti légitime.
Après, c'est aussi une de mes théories. Voilà. C'est que je considère qu'on vit dans une société où si jamais vous avez à vous justifier d'un acte que des personnes considèrent immoral, le fait de dire que ça me fait du bien, ça ne suffit pas. C'est pas le fait de ça. C'est comme quand ils disent que c'est une tradition. Ils disent pas que c'est une tradition, donc c'est moral. Ils disent que c'est une tradition, donc j'ai un intérêt à le faire. Et dans une suprématie humaine, dès que vous avez un intérêt à faire quelque chose, ça légitime tout ce que vous voulez sur les animaux. Mais ça sous-entend que les gens soient, que votre auditoire soit déjà d'accord avec le fait que si vous avez un intérêt, alors c'est légitime de dominer les animaux. Ça ne justifie pas du tout cette prémisse-là.
Excuse-moi, je me demande si le mot intérêt n'est pas trop fort à ce moment-là. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser plutôt le mot
Mon idée, c'est d'expliquer ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire que, quand ils disent... sa justification, le principe de sa justification, c'est de dire... si jamais vous m'interdisez cette chose-là, ça me ferait du mal. Après, le truc de la tradition, je l'ai dit, justement, cette tradition, c'est possible que des gens la présentent comme une règle qui ne leur appartient pas à eux, mais qui appartient à la société qu'ils veulent respecter. Mais c'est pas vrai. Puisqu'il y a d'autres moments où ces traditions sont très, très contents de la bafouer. Et du coup, le fait d'appeler à la tradition, c'est pas tant « oui, mais la tradition, c'est important, donc il faut la respecter », c'est « oui, mais cette chose-là est importante pour moi, et maintenant que vous la remettez en question, je vais dire que c'est une tradition pour m'en défendre. » Mais ils ont un intérêt à, n'importe quoi, faire telle ou telle chasse, la tauromachie, des choses comme ça. Et donc ça, c'est dans le cas où on a désarmé un individu sur le moment, et en plus on a attaqué. Ce qui nous intéresse nous surtout, c'est d'un point de vue de projet de société. Qu'est-ce qui se passe si on a toute une société qui reste des spécistes convaincus, mais en fait qui, au moment où on les remet en question, n'est pas capable de faire appel à certains arguments. Et moi je pense qu'on a une sorte de retour à la question, qui est que ces personnes-là ont essayé d'esquiver en tant que société, imaginez l'Assemblée nationale, un congrès quelconque qui est censé évaluer la question, ils ont essayé d'esquiver cette question-là parce qu'ils ont un intérêt à l'esquiver et que pour finir, s'ils protègent ça, ça vaut plus que le fait d'agir moralement dans ce cas-là. Mais en fait, ils arrivent ici, ils n'ont rien à dire, et forcément, moi je considère que quelqu'un qui n'a pas d'argument va forcément se poser la question de ses prémices en fait. Et cette question de ses prémices, c'est ce que je dis ici, c'est quoi ce que moi j'appelle la question animale, il faudrait que je prenne le compte parce que c'est de la question. Ou en disant, la question que cette société-là va être amenée à se poser, c'est la question de ses prémices qui est-ce qu'il est légitime de faire passer les intérêts privés des humains avant les intérêts fondamentaux des animaux? Et là, j'en ai déjà discuté, c'est assez clair que cette question elle est chargée. On imagine peu quelqu'un qui se serait posé cette question et qui s'engagerait à y réfléchir de manière honnête, en arriver à dire non. Il n'y a pas d'élément dans notre société qui permettrait de répondre non à cette question-là. C'est une question qui n'est pas posée. C'est une question, d'une part, on peut la poser aux gens et ils vont se sentir légitimes de l'esquiver parce qu'ils ont des arguments. Et en fait, nous, la question qu'on veut poser aux gens, c'est ça. On s'en fiche de savoir si ils aiment la viande, s'ils prennent des médicaments, s'ils aiment la diversité. Ce qu'on veut savoir, c'est pour quelle raison ils vont se considérer qu'il est légitime de faire passer les intérêts privés des humains avant les intérêts fondamentaux des animaux. Et en fait, nous, on a plein de réponses, mais les gens entendent jamais la question. Puisqu'ils esquivent tout le temps. Et moi, je pense que si on arrive à faire poser la. Enfin, si le but pour moi de mon projet politique animaliste, c'est d'en arriver à un moment où la société se pose cette question-là. Parce que je considère que moi, elle se pose la question qu'on a déjà la réponse. Et je crois que j'ai fini. Oui, du coup, je vais conclure, je vais lire mes conclusions parce que je ne connais pas par contre. Enfin, les conclusions, je vais récapituler en quelque sorte. Donc, ça, c'est il y a 6 points. Le premier point, c'est le fait que l'exploitation animale, telle qu'on la voit, les pratiques, va être une conséquence d'un système politique qui légitime la négligence des animaux lorsque cela permet de satisfaire un intérêt humain socialement accepté. Donc, avec ce système politique-là, évidemment que dès que les humains peuvent, ils vont le faire. Et c'est juste quand ils vont se sentir mal, quand ils vont... Typiquement, les premières lois sur la cruauté des animaux, c'était surtout pour dire que si vous tapez votre chien, on pense que vous êtes plus propice à taper l'humain d'à côté. Mais ça a d'abord été motivé par l'idée de protéger les humains. Le deuxième point, c'est le fait que ce système politique-là, il va créer une confusion entre animal comme une catégorie biologique ou non-humain comme une catégorie biologique et animal comme une catégorie politique dont les individus, une catégorie politique d'individus dont les intérêts sont négligés au profit de la catégorie politique d'humain. C'est-à-dire qu'on va parler des individus non-humains, mais on ne va pas les considérer comme des individus a priori libres avec des intérêts dont on devrait justifier la domination, mais on considère que dès qu'on en parle, c'est que la personne à qui vous parlez est d'accord avec cette prémisse-là. La société dans laquelle on vit, c'est quand on va parler des animaux, on va toujours considérer que c'est une prémisse qu'on accepte, que moi et mon interlocuteur vont accepter. Le troisième point, c'est... Ce que je veux dire, c'est que ce système politique, ça va être la conséquence de la complaisance vis-à-vis des structures de pouvoir qui est dans notre société. Enfin, on a une société qui n'est pas très prompte à se dire « Ah, il y a des structures de pouvoir, peut-être qu'on va essayer de les questionner. » Et en plus de la facilité qu'ont les personnes en faveur de ce système politique d'obtenir une approbation des autres lorsqu'ils esquivent ces remises en cause. C'est-à-dire que c'est surtout parce que dès que les personnes-là sont remises en cause, elles peuvent tout de suite trouver des arguments très facilement accessibles. Vous les avez tous en tête, la gazelle, les prairies, la B12, les graines et tout machin, tout comme ça. C'est surtout parce que quand on les remet en question, ils peuvent avoir très facilement accès à ces arguments qu'ils se permettent de ne pas se remettre en question. Donc je pense que s'ils n'avaient pas ces arguments, ils seraient mis face à la stupidité de ce qu'ils disent, et individuellement, s'ils étaient isolés, ils se sentiraient un peu obligés d'y réfléchir. C'est que parce que collectivement, ils peuvent protéger leurs intérêts sociaux, de ne pas être pris pour des gens qui ne réfléchissent pas et qui, du coup, cruels en quelque sorte, qu'ils se permettent de faire ça. Un autre point, ça va être que... Ah ouais, j'ai enlevé le truc sur l'animalisme radical. Bah, du coup, je vais dire, oui, l'animalisme radical, il était là. C'est-à-dire que moi, je considère... moi, je vais porter un projet que je vais appeler l'animalisme radical, dans le fait, dans le sens où je vais considérer que les animaux sont exploités parce qu'il existe cette catégorie politique et des animaux. C'est parce que, en tant que cette catégorie politique-là existera, tant qu'on considérera qu'il existe une catégorie d'individus qui ont des intérêts subjectifs qu'on peut négliger parce que l'autre catégorie a des intérêts triviaux, tant que cette catégorie-là elle sera effective, ce ne sera pas possible d'avoir des animaux qui vont être en sécurité, qui connaîtront la paix. Du coup, ce que moi j'appelle l'animalisme radical, c'est le projet, c'est la vision de société dans laquelle cette catégorie politique-là est devenue ineffective. Ou en fait, comme je disais avec la confusion de Francis Wolff, qu'il n'y ait plus aucun individu qui soit dans cette catégorie-là, qu'il n'y ait aucune justification de mettre un individu dans cette catégorie-là. Un autre point, c'est la libération animale, que moi je vais considérer comme étant la fin de la pertinence de cette catégorie animale comme une catégorie qui dépend de dignité, sera d'autant plus imminente que la question animale, en tant que remise en cause de la pertinence de cette catégorie, sera présente dans la société. Et que les outils pour la déséquilibrer seront affaiblis. C'est-à-dire qu'on est d'autant plus proche de cette libération animale que cette question-là est forte et les gens sont obligés d'y répondre, et que quand ils sont obligés d'y répondre, ils n'ont rien pour dire. Et enfin, l'animalisme radical propose que cette légitimation de la question animale, c'est l'idée de forcer la question animale sur la société, et la délégitimisation des outils pour l'esquiver soit mise au centre du combat pour les animaux, et que la collaboration entre tous les acteurs et actrices de cette lutte s'articule autour des accords et des désaccords dans les analyses des structures de légitimation de la suprématie humaine d'une part et de la justice animale d'autre part. C'est-à-dire que je pense que la plupart des conflits en fait entre les différentes factions de personnes qui veulent sauver les animaux, ça va être la question de comment est-ce qu'on attaque ces arguments-là et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ces arguments-là soient sollicités et que cette question-là soit posée. Et moi c'est ça que je propose, c'est-à-dire que quand on discute stratégie, en fait, le désaccord qu'on a, c'est vraiment sur ces deux choses-là. Et si on est d'accord sur cette structure-là de l'individu comme un individu qui a d'autres intérêts que le fait d'agir absolument moralement. Et du coup, j'ai fini, j'ai remis cette image. Ça, c'est l'URL sur lequel il y aura bientôt une bibliographie pour tous les textes que je cite. Et ça, c'est des approfondissements qu'on peut explorer maintenant, si vous voulez, sur ce qu'est les collaborations et les désaccords par rapport à l'antispécisme. Qui est-ce qu'on devrait cibler pour la libération animale et de quelle manière est-ce qu'avec une vision qui considère que les gens sont dominés par leur propre construction sociale, comment est-ce qu'on s'adresse à eux parce qu'on ne peut pas leur adresser directement, ils nous expliquent.